La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors nous sommes en train d'évoquer un peu le contenu de ton livre « Les couples phares de la Bible » paru chez Salvatore. Et parmi ces couples phares, nous sommes en train de présenter Isaac et Rebecca et j'allais dire aussi leur progéniture. Mmh. Et donc comme progéniture, ils ont eu des jumeaux. C'est la deuxième paire de jumeaux de l'écriture après Caïn et Abel. Et dès le début, on avait vu qu'il y avait un gros problème d'opposition utérin entre Ésaü et Jacob. Et tu voulais nous parler donc de ce droit d'aînesse que possède Ésaü et qui va être donc vendu sans remords contre un plat de lentilles préparé par le cadet Jacob. Dis-nous un peu plus de ce droit d'aînesse.
Alors, sans la bénédiction, il faut bien dire que c'est comme si Jacob avait la serrure, mais il n'a pas la clé. Et sans la bénédiction, qui est la clé, et qui ferait de lui effectivement l'héritier des promesses, le droit d'aînesse n'est qu'une coquille vide, tu vois,
il y a une potentialité, mais tant qu'il n'y a pas la bénédiction, ce n'est pas une réalité.
Exactement. Or, le jour où Isaac, donc son père, qui est aveugle, sent sa fin prochaine, il va convoquer Ésaü près de lui.
Donc l'aîné.
L'aîné, pour lui demander de lui préparer un régal à partir du gibier qu'il va aller chasser en l'honneur du repas d'alliance qui doit sceller ce moment où il va transmettre la fameuse bénédiction. Rebecca, qui écoute aux portes, ou du moins derrière les toiles de tente, ayant surpris leur échange, vient très vite auprès de Jacob et lui dit « Mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. »
Oui, parce qu'il faut toujours se souvenir qu'elle, elle a comme boussole cet oracle reçu en disant « L'aîné servira le cadet. »
C'est ça.
Et tout doit concourir à ce que Dieu lui a dit dès le début, alors qu'elle était enceinte. Donc quand elle entend ça, elle se dit « Ok, il faut qu'on trouve une solution. » Alors le but, on va tenter de mystifier en fait Isaac en tirant profit du fait qu'il est aveugle. Et donc l'idée c'est de pouvoir usurper la bénédiction dévolue normalement à Ésaü et de la faire retomber sur le cadet Jacob. Parce que une fois que cette bénédiction elle sera prononcée, elle devient irrévocable dans la mesure où davar, la parole en hébreu, c'est à la fois la parole et en même temps devarim, les événements. C'est la même racine. Donc une parole donnée devient événement, volonté divine.
Ce qui est dit advient.
Exactement.
Voilà.
Toutefois, si le subterfuge échoue, alors Jacob risque d'être maudit par son père,
oui,
ce qu'il redoute. Et pour vaincre ses scrupules, eh bien, Rebecca lui dit « Ok, très bien, je prendrai sur moi la malédiction paternelle. »
Oui, elle est prête à tout
pour
que ça marche, en fonction de l'oracle qu'elle a reçu. Alors, le stratagème va fonctionner, hein, il est risqué, mais les bras et le cou sont recouverts des peaux de chevreau. Hein, la chair a servi à prêter un ragoût formidable pendant qu'il mitonnait, elle a entouré les bras de son fils de ses peaux de chevreau. Elle l'a revêtu du manteau de son frère, hein, Ésaü, en sorte qu'il est complètement grimé et qu'il sent.
Il va même travestir sa voix.
Il va travestir sa voix et Jacob
obtient la bénédiction.
Exactement, il va réussir. Rebecca était ainsi parvenue à ses fins. L'aîné servirait le cadet. La supercherie découverte, étrangement, Isaac ne va pas revenir sur ce choix. Malgré les cris et la colère d'Ésaü qui dit « Mais non, c'est pas possible, tu dois revenir dessus. » Il pleure, il tempête. Sa résignation motiva la décision du frère floué de faire une chose, de se venger de Jacob une fois que son père serait mort, et de le tuer. Et il le dit à la cantonade, quand mon père sera mort, je tuerai Jacob. Alors, Rebecca entend ça, et elle va obtenir de son mari qu'il envoie sur le champ Jacob chez son frère Laban, c'est-à-dire qu'il retourne en Mésopotamie, en haute Mésopotamie, pour y chercher une épouse de toute urgence, sauvant par là même ses deux fils d'une vendetta meurtrière, parce qu'elle soustrait Jacob à la vengeance de son fils.
Alors, justement, le fait que tu évoques le fait qu'il va partir, Jacob, pour se chercher une épouse, eh bien, ça va créer un nouveau chapitre. Mais si, avant d'évoquer donc ce chapitre entre Jacob et sa ou ses futures épouses, hein, parce qu'on va voir que c'est encore plus compliqué avec lui, d'une certaine façon,
oui.
On pourrait, j'allais dire, tirer quelques conclusions de ce deuxième couple, Isaac et Rebecca.
Oui, c'est vrai.
Premièrement, on pourrait commencer en disant que si l'on accepte l'épisode de Gérard où Isaac avait présenté sa femme comme étant sa sœur pour éviter de subir un mauvais parti de la part du roi philistin Abimélec, qu'il avait fait enlever en raison de sa très grande beauté,
oui.
Et imitant cela exactement l'attitude d'Abraham vis-à-vis de Sarah dans les mêmes circonstances, globalement, on peut dire que Isaac et Rebecca passe pour un modèle de fidélité conjugale, hein, sans qu'il s'agisse pour autant d'un couple qui soit romantique et fusionnel. Absolument pas.
Mmh. À ce titre, je dirais que l'exégèse rabbinique a vu dans le geste de Rebecca se couvrant de son voile dès qu'elle aperçoit de loin, en sautant à bas de son chameau, qu'elle aperçoit Isaac venant vers elle. Eh bien, c'est pour les rabbins, c'est le symbole de la relation conjugale qui se passe de dialogue dans la mesure où, même aux yeux de tous les protagonistes, la chose vient de Yahvé. C'est-à-dire, elle est tous les deux voient que c'est la volonté de Dieu. Chacun s'en tient à l'appel reçu de Dieu sans rendre compte à l'autre de ce qu'il a à faire.
En effet, même d'ailleurs confiante en son inspiration, Rebecca s'empresse de la mettre en œuvre pour servir le Seigneur, qui la lui a fait connaître, gardant le cap même contre le choix de son époux. Et de même, pour vaincre les scrupules de Jacob, par trois fois, elle va lui annoncer avec fermeté « Mon fils, écoute ma voix », c'est-à-dire la dimension de l'autorité maternelle. Fidèle à Dieu, par-dessus tout, Rebecca, rose parmi les ronces, ça c'est la tradition orale juive qui dit qu'elle est une rose parmi les ronces, cette femme, eh bien, elle s'est usée à loisir de la ruse du serpent, de la candeur de la colombe, et au regard de sa clairvoyance, de sa témérité et de son abnégation, il faut dire une chose, c'est que quand Jacob part, elle ne le reverra jamais plus.
Oui, et elle a mérité pour cela de compter au nombre des sept prophétesses que recense le judaïsme. On lui doit d'avoir vu de loin que l'aîné, à savoir le vieil homme, le vieil Adam pécheur, héritier du péché d'Adam, par la grâce des eaux puisées, anticipation de notre baptême, se mettra à servir le cadet, le Christ Jésus, l'homme nouveau, dont le talon était destiné à écraser la tête du serpent.
Voilà pour Isaac et Rebecca. Donc maintenant, on voit donc que dans la précipitation, Jacob part dans sa famille éloignée, du côté de sa maman, et il va trouver la femme de sa vie, et c'est pour nous la possibilité de présenter un nouveau couple qui s'appelle Jacob et Rachel, la bergère. Donc tous les deux, ils forment clairement le couple le plus rock'n'roll de la Bible.
C'est moins qu'on puisse dire.
Tant leur histoire est tumultueuse et leur tempérament incandescent, voire explosif.
Oui, c'est les feux de l'amour. Hein.
Alors, épris au premier regard, tout semble néanmoins se liguer pour faire échec à leur amour, aussi sincère qu'exclusif. Tout en se débattant dans le dédale des tribulations en tout genre, ils vont tenir ferme ce fil d'Ariane qui les lie à la vie, à la mort et bien au-delà. Jocelyne, dis-nous, parce que là, c'est un formidable teaser.
Mmh. Et écoute, Étienne, nul plus que Jacob et Rachel ne saurait s'identifier au cantique des cantiques. Elle, la fiancée, Kala en hébreu, ainsi que lui, le fiancé, Dodi. C'est ainsi que les appelle le cantique des cantiques. Alors, la fiancée, Kala, dit « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur. » Et Dodi répond « Comme un tatouage sur ton bras. » Kala relance en disant « Car l'amour est fort, plus que la mort. » Et Dodi répond « C'est une flamme qui vient de Yahvé. » Et Kala de reprendre « Et les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour. » et d'Odie de conclure, ni les fleuves de l'histoire le submerger. C'est très beau.
Donc, avant d'évoquer leur rencontre, il faut, et ça c'est très important parce que, dans ces couples phares de la Bible, il y a toujours une idée que chaque couple, il est préparé dans l'enfance et l'adolescence de chacun.
Oui.
Et que pour ça, on ne peut pas faire l'économie de bien regarder ce qui s'est passé dans l'enfance et l'adolescence de chacun des protagonistes qui vont former les couples, justement pour mieux comprendre que tout est déjà en germe avant la formation du couple dans cette enfance et cette adolescence. Donc, on avait vu que c'était des prémices quand même mouvementées, lesquelles donc vont sceller le dessein de Jacob, qui doit être envoyé, nous dit le texte, se choisir une femme parmi les filles de Laban, de la maison donc de Sarah, de la famille de Rebecca, sans préciser d'ailleurs Laquelle des filles de Laban il devra choisir.
Se choisir, et donc la responsabilité lui revient.
Sans choisir une, et en fait, ça va être tout le problème, parce que Laban, il a des filles, et non pas une, et le choix va être redoutablement compliqué à faire. Une véritable boîte de Pandore, en fait, cette phrase.
C'est ça. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, donc Rebecca, je résume, avait 15 ou 16 ans, quand elle avait rencontré Isaac, qui en avait 40. Et la Genèse nous dévoile qu'Isaac en a 60 quand il va devenir le père de Jacob et d'Ésaü. C'est au chapitre 25 de la Genèse. Autant dire que Rebecca a connu de longues
périodes de stérilité.
Exactement. Qui motive l'intercession instante de son époux en sa faveur pour qu'elle obtienne des enfants. Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça et sa femme, Rebecca, devint enceinte. Tout nous dit le chapitre 25 de la Genèse.
C'est donc une femme mûre, oui, Rebecca, qui frôle la quarantaine, qui a déjà beaucoup lutté, souffert, et qui va devenir la mère de la seconde paire de jumeaux de la Bible après Caïn et Abel. Mmh. Donc, dramatique précédent, évidemment, qui va sans doute influer sur le conflit qui se trouve
à l'intérieur d'elle-même.
Oui, puisque le texte nous dit que les enfants se heurtaient en elle-même pendant sa grossesse.
Oui, punching ball.
C'est ça, combat de boxe. Si bien qu'elle se désespère d'avoir attendu si longtemps la maternité pour y goûter l'angoisse de porter des frères ennemis qui se comporteront peut-être comme Caïn vis-à-vis d'Abel, c'est-à-dire cherchant à tuer l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, l'oracle qu'elle avait obtenu du Seigneur l'avait tranquillisée. L'aîné servira le cadet, et elle se l'est tenue pour dit, et elle a réglé sa conduite là-dessus, comme sur une boussole. En conséquence, c'est sous l'impulsion de sa mère, Rebecca, que Jacob va subtiliser la bénédiction de son père Isaac, devenu aveugle, à son jumeau Ésaü, tandis que celui-ci courait la steppe à la recherche du gibier pour préparer le régal de son père. Il en résulte que sur Jacob, nous l'avons vu, que repose la bénédiction d'Abraham, lequel, bien qu'étant le cadet, hérite de la promesse divine, qu'en lui se béniront toutes les nations de la terre. Ça nous concerne tous. En lui et en sa descendance. Il n'est pas dit ses descendants, mais sa descendance. Et les pères de l'Église ont vu dans ce singulier l'annonce prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ, descendant de Jacob, à travers son quatrième fils, Judas. Nous le verrons lui aussi dans les couples phares de la Bible, l'ancêtre du roi David.
Donc, Isaac, aveugle, donne la précieuse bénédiction à Jacob, le cadet, en croyant serré dans ses bras son fils aîné Ésaü, surnommé Édom, qui veut dire le rouge, tout couvert de poils roux, que Jacob a contrefait en se dissimulant les bras et le cou sous une peau de chevreau, sur les conseils de sa mère, et Isaac de déclarer « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que le Seigneur a béni. » Que Dieu te donne la rosée du ciel et de gras terroir, froment et vin en abondance.
Cependant, Étienne, Jacob a beau être béni, il court de grands risques à rester auprès de ses parents. Car Ésaü, fou de rage de s'être fait berner, a promis de le tuer dès que leur père se serait éteint, afin de récupérer à la fois la promesse et l'héritage. Lui qui s'est entendu dire, quand il est arrivé trop tard, et que la bénédiction était passée sous son nez, « Loin des gras terroir sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère.
Quant à Isaac, alerté par Rebecca, il appelle une nouvelle fois Jacob et lui fait cette recommandation sans laquelle la promesse ne pourra qu'avorter. Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va en Padan Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et choisis-toi une femme de là-bas, parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Ce cahier des charges, Jocelyne, a le mérite d'être clair, enfin presque, parce qu'il s'agit de prendre une femme parmi les filles. Donc, on va voir. Jacob, n'ayant rien dans les poches, sinon cette recommandation, se hâte de fuir vers Padan Aram, en Mésopotamie, dans le fief maternel, où son père Isaac et sa mère Rebecca, pour des raisons distinctes, l'ont envoyé, dès lors que repose sur lui la bénédiction subtilisée à son frère Ésaü.
Alors la tradition juive nous dit que Jacob, en chemin, se serait fait le raisonnement suivant. « Pour trouver une femme à mon père, son serviteur Eliezer se rendit auprès d'une source d'eau. Et c'est là qu'il trouva la femme qui devint ma mère. Il faut donc que je cherche moi aussi un puits pour rencontrer celle qui deviendra ma femme. » Ça paraît logique. Jacob arrive donc auprès d'un puits d'eau vive en plein après-midi, lequel ne semble dévolu qu'à l'usage des troupeaux a priori. Or, pour éviter le vol de ces eaux ou son ensablement malveillant, ou même encore son empoisonnement de la part d'autres bergers, eh bien le puits est obstrué par une très grande pierre qui en garde l'orifice. Orifice, dans ce cas-là, ça se dit fait, c'est-à-dire la bouche en hébreu, comme on dit une bouche de métro aujourd'hui, hein, pour nous, la bouche du puits. Cette pierre, qui est spécialement grande, se dit Even Gadola. Alors qu'il approche, Jacob remarque la présence de trois troupeaux qui se tiennent couchés là, sous la garde de leur berger, désœuvrés, alors que le jour est encore haut et qu'il n'est pas temps de rentrer au bercail. Alors Jacob, en arrivant, les interpelle avec bienveillance, avec aménité. Il dit
« Mes frères, dit-il, d'où êtes-vous ? Nous sommes de Haran. » La réponse est laconique, car les bergers se méfient de cet étranger. Que vient-il faire près de ce puits, si loin de sa terre? Quelle menace représente-t-il pour eux? Et sans se formaliser, Jacob poursuit. « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ?» Et la réponse fuse aussitôt. « Nous connaissons. » Mais Jacob ne désarme pas, il continue. « Va-t-il bien ?» Littéralement, « La paix est avec lui ?» Et eux de répondre, « La paix. » Et voilà Rachel, sa fille, qui arrive.
Je dirais, dans ces phrases, ces deux phrases échangées, signifie en réalité, écoute, arrête de nous bassiner, demande-le plutôt à sa fille Rachel et laisse-nous tranquilles. Ainsi, les trois tentatives réitérées hein, de Jacob pour tenter de lier un dialogue n'ont pas eu le pouvoir de briser la glace et ce dernier commence à s'impatienter tout de même. Jacob ne comprend pas que ses bergers, qui n'ont apparemment pas de temps à lui prodiguer pour lui répondre de manière sympathique, en perdent pourtant à attendre sans rien faire, sans même essayer de bouger la pierre pour pouvoir abreuver leurs ouailles qui meurent de soif. Aussi se permet-il d'insister. Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rentrer le bétail, abreuver les bêtes et retourner au pâturage.
Le propos tombe à plat, car c'est ignorer que l'on ne peut bouger la pierre à dessein très lourde, que lorsque tous les troupeaux sont là, avec tous les bergers pour pouvoir la manœuvrer, afin de garantir une scrupuleuse, on va dire équité, dans la répartition de l'eau. À ce détail, on comprend d'ailleurs que c'est un peu l'équilibre de la terreur qui règne en Haran, où tout le monde se méfie de son voisin. Et tandis qu'ils discutent encore, Rachel s'est dirigée vers le puits. Son troupeau, lui aussi, est miné par la soif. Mue par une intuition supérieure, elle s'est hâtée en ce lieu, tout en sachant qu'elle ne pourrait pas non plus rouler seule la grande pierre du puits.
Alors, Jacob lève les yeux et il la regarde venir, elle et son troupeau. Et il est immédiatement saisi de pitié et d'amour envers eux. N'écoutant que son cœur, il s'empare de la grande pierre qui requiert, en temps normal, les efforts conjoints de 40 bergers, nous dit la tradition. Et voilà que seul, il roule la pierre de dessus la bouche du puits et en abreuve le troupeau de son oncle. La petite histoire, hein, la tradition, prétend même qu'il n'eut pas la peine de puiser, lui non plus, parce que l'eau monta d'elle-même à sa rencontre et déborda de la margelle, jaillissant miraculeusement. Ce phénomène extraordinaire aurait perduré jusqu'à son départ en Haran, 20 ans plus tard.
Alors, comme l'eau l'avait été pour Rebecca, sa maman, qui avait abreuvé les 10 chameaux de Eliezer, eh bien là encore, elle va devenir le signe que Dieu a conduit Jacob à bon port et qu'il vient de placer devant lui Rachel, son épouse qui lui est destinée. Dans un élan d'une incroyable audace, Jacob saisit la jeune fille par les épaules et l'embrasse sous les yeux médusés des bergers. Son geste est si incongru, il est si bouleversé, à la fois par la grâce de cette jeune fille, Rachel, et puis par la proximité du dessein de Dieu qui vient de signer sa présence parmi eux, qu'aussitôt, en proie à la plus vive émotion, il se met à sangloter tout haut.
Il est sensible, Jacob.
Et ainsi s'achève, en lien avec cette rencontre complètement impressionnante. Ils ne se connaissent pas du tout et ils l'embrassent direct. Ah, bon, ok.
C'était pas l'habitude.
Il est encore plus rock'n'roll et contemporain qu'on pourrait imaginer. Ainsi s'achève notre émission. On verra la suite la prochaine fois. Alors, vous pouvez retrouver le contenu de cette émission sur les couples phares de la Bible. Là, on est en train de parler de Jacob et Rachel. Dans un livre de Jocelyne qui s'appelle « Les couples phares de la Bible » paru chez Salvator. La chanson qui va être diffusée, évidemment, elle parlera du puits de Jacob, elle parlera aussi d'une eau qui jaillit pour la vie éternelle. Évidemment, ce sera la chanson de la Samaritaine. Vous pourrez l'écouter là où vous écoutez la musique, Spotify, Deezer, ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Enfin, ceux qui souhaitent éventuellement nous profiter de nos conférences, de nos concerts dans toute la francophonie, vous pouvez nous contacter au mail de l'émission biblepasapas@gmail.com. Je pense aux écoles, aux collèges, aux lycées, aux paroisses, aux groupes bibliques, aux fêtes de famille. N'hésitez pas à nous interroger, envoyez-nous un petit mail et on sera très content de pouvoir chanter là où vous vivez. Très bonne semaine à toi, Jocelyne.
Très bonne semaine, Étienne. Et surtout, très bonne semaine à tous.
À l'heure méridienne, moi la Samaritaine, ma cruche sur l'épaule, je viens chercher de l'eau. Que fait cet homme assis tout seul sur la margelle? C'est un juif. Et pour eux, je suis une païenne entre nos peuples, c'est la haine, c'est la haine. Tu me demandes à boire, à moi Samaritaine, mais je viens de Sichem, toi de Jérusalem. C'est notre père Jacob qui pour nous a creusé ce puits profond où tu veux te désaltérer. Entre nos peuples, c'est la haine, c'est la haine. Donc prier sur le mont Garizim ou à Jérusalem, ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Dieu est esprit, c'est ton esprit et vérité qu'il nous faut adorer. Le Père. Femme, si tu savais le don de Dieu. chercher ton mari, Seigneur, je n'en ai pas. C'est vrai, ils étaient cinq, mais personne avec toi. Si c'est toi le Messie, arrête ma dérive, je laisse là ma cruche, car en toi, j'ai l'envie.